Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous vous proposons, en partenariat avec le festival Mode d'emploi, une approche sur le thème du vaudou. Emmanuel Barré est parti à la rencontre de deux spécialistes autour de ce thème. Donc, d'un côté, Arnaud Zou, un philosophe et réalisateur franco-béninois, généraliste sur cette question, et de l'autre, Jean-Christophe Vignol, un médecin et docteur en psychiatrie de l'hôpital du Vignatier, brisant les clichés et renouvelant le regard à travers des cas concrets sur un phénomène vacillant entre religion et culture. Nous vous proposons une nouvelle approche du vaudou. Bonne écoute à tous.
Oui, je crois que un jour peut-être je n'écrirai pas, mais je sais que je lirai toujours à moins de ne plus pouvoir voir.
De sang et de sorcellerie, quoi, pour résumer un petit peu la situation. Ce qui est une vision relativement orientée, on va dire, et qui est une vision orientée dans le sens où, généralement, quand on parle souvent du vaudou haïtien. Ça s'écrit V-A-U-D-O-U en Haïti. Mais ce vaudou-là vient d'ailleurs, en fait, en grande partie, il vient du golfe de Guinée, ou golfe du Bénin, donc de la région qui aujourd'hui comprend, on va dire, le sud-est du Ghana, le sud du Togo, le sud du Bénin et le sud-ouest du Nigeria. C'est la zone géographique, on va dire, originaire. Et avec les esclaves, en fait, il a traversé les mers et il s'est installé dans les Caraïbes, les Antilles et les Amériques. Et il s'est transformé là et il a donné différents types, on va dire, de pratiques. On connaît donc le vaudou haïtien, on connaît la santeria cubaine, qu'on retrouve aussi en Colombie ou au Venezuela, je crois aussi. Il y a le candomblé brésilien, qui est une variation, une variante hein, par rapport à ça. Et l'obéaïsme, qu'on retrouve en Jamaïque. Le vaudou, alors, évidemment en Haïti et aussi au sud des États-Unis, où il y a en Louisiane, Alabama, etc. Où là, on parle plutôt du voudou, donc V2O, D2O. Et le mot originel, ou en tout cas, donc c'est des choses sur lesquelles on peut discuter, le mot originel, qui s'écrit plutôt V-O-D-U-N, ou V-O-D-O-U-N, est probablement un mot fon. Donc le fon et les fons sont une population qui est de l'ancien Dahomey, donc du Bénin actuel, ou en tout cas une langue qui est apparentée. C'est-à-dire toute cette région, il y a à peu près 17 langues, qu'on appelle les langues B, qui sont assez proches les unes des autres, et il est probable que le mot vaudou soit un mot originaire de cette région-là. Voilà. Pourquoi on a ces images de bave de sang et de poupées transpercées ? C'est que quand les États-Unis ont envahi l'île d'Haïti pour des questions essentiellement économiques et stratégiques, en 1915, il y a eu tout un mouvement qui a été fait, alors c'est pas né complètement, mais il y a quand même tout un mouvement qui a été fait, on va dire, de diabolisation de ce qu'on appelle le vaudou, à travers tout un ensemble d'organes de propagande. Donc il y a eu des émissions radio. Il y a eu des pulp fiction, des petites revues qui sortaient. Évidemment, il y a eu des films, énormément de films qui ont été faits, des livres qui ont été très marquants, hein, comme un livre qui s'appelle L'île magique, qui a été fait par un auteur qui s'appelle Seabrook, et qui a un livre qui a eu un succès énorme, en fait, quelqu'un qui est allé en Haïti, qui a raconté un ensemble de choses assez horribles sur les pratiques qui se faisaient dans cette île-là. Seabrook, d'ailleurs, c'est un personnage assez curieux qui est mort en 1945 à Paris, suicidé, après un mariage, et qui a été plus ou moins envoyé en plus en Haïti. C'était un aventurier assez dépressif, a été envoyé par Paul Morand, en fait, qui était chez Gallimard, et qui en 28 avait sorti dans le grand imaginaire qu'on avait à l'époque, en particulier surréaliste autour de la magie, avait sorti un livre qui s'appelait Magie Noire. Et envoie Seabrook en Haïti pour faire une étude un petit peu là-bas, et sort l'île magique, et traduit l'île magique ensuite pour Gallimard. Voilà. Et donc, il y a eu comme ça tout ce mouvement-là, qui était plus pour justifier, on va dire, les exactions de l'armée américaine qui massacrait quand même, en particulier les paysans haïtiens, assez largement, et qui, pour justifier quand même tout ce travail-là, disait que c'était des gens qui pratiquaient un ensemble de rites obscurs, qui rentraient en transe, et qui avaient tout un ensemble de pratiques, jusqu'au cannibalisme, hein, qui était... Et donc, cet imaginaire-là, en fait, c'est un imaginaire qui est resté très, très ancré, et quand on dit le mot vaudou, en tout cas, c'est ça qui nous arrive, généralement. Originellement, c'est pas exactement ça. Par exemple, vous ne verrez jamais au Bénin un portrait avec des aiguilles qui sont plantées à l'intérieur. Voilà. Ça, vous allez le voir dans le Berry, en France, ou assez fréquemment, enfin avant, ou en Haute-Loire, pas très très loin d'ici, mais au Bénin, absolument pas. Voilà. Donc, l'approche que j'ai, j'essaye d'avoir par rapport à la question du vaudou, c'est de voir... dans son berceau d'origine, alors essentiellement autour du Dahomey, c'est d'abord d'avoir une approche politique un petit peu de cette question-là. C'est-à-dire que, effectivement, c'est une pratique, on va dire, culturelle, pour, au mieux une religion, on va dire. Bon. Au-delà de ça, quand on va interroger les gens au Bénin, et quand on commence à leur parler, si on leur dit, le vaudou, qu'est-ce que c'est pour vous? Est-ce que, ça correspond à quoi? Généralement, ils vont commencer à dire, ça correspond à des divinités. Ces divinités sont de multiples formes, ça peut être des forces de la nature, le tonnerre, le vent, etc., peuvent devenir des divinités et rentrer, en fait, être considérées comme des divinités vaudou. Souvent, ce sont des ancêtres divinisés, donc c'est un rapport aux morts, mais ça, on en parlera plus samedi. Donc il y a aussi cet élément-là. Et puis, quand on commence à creuser un petit peu, on se rend compte qu'en fait, tel geste qu'ils font le matin, par exemple, pour se laver, on se rend compte que ce geste-là ne vient pas de nulle part. Il a souvent été inspiré de pratiques qui sont faites dans les couvents, où l'hygiène est extrêmement précise et rigoureuse. Et ces choses-là qui sont faites dans les couvents continuent à transpirer ou à transparaître en fait, dans la vie quotidienne. Voilà. Donc, en creusant un petit peu ce lien entre à la fois le côté religieux, le côté vie quotidienne et le côté manière dont les gens regardaient la vie, je me suis intéressé à la formation en fait, du Dahomey, du Bénin. Et le Dahomey, c'est un pays qui s'est monté relativement tardivement, c'est-à-dire que c'est un pays qui est né au XVIe siècle à peu près. Et c'est un pays qui est né de plusieurs peuples qui se trouvaient là, qui se sont rassemblés autour d'un projet politique commun. Un projet politique qui était un projet assez révolutionnaire à l'époque, parce que donc, les royaumes qui existaient à cette période-là, c'est des royaumes où on avait une transmission dans les familles, on va dire. Or, le Dahomey, qui émerge en fait, au moment de la traite négrière, parce que la traite négrière en fait, déstabilise beaucoup les sociétés qui sont là, va proposer un projet politique complètement original en disant qu'en fait, toute personne qui arrive au Dahomey et qui aide à fabriquer le pays, va devenir un citoyen, il n'y avait pas ce mot-là, mais ce citoyen du royaume. C'est-à-dire qu'en fait, ils prennent toutes les personnes qui apportent quelque chose au royaume et, à travers toutes ces personnes qui le fabriquent, fabriquent un État. Et ce principe d'assemblage, c'est un principe qui va être transmis dans toutes les strates de la société. C'est-à-dire que la religion, les religions qui étaient là, moi, c'est ce que j'appelle aujourd'hui le vaudou aussi, c'est-à-dire que tous les dieux, toutes les forces qui sont un peu partout sur ce territoire-là, on va aller les chercher, on va les prendre, on va les assembler, et on va en faire un panthéon global. Donc il y a des dieux qui viennent de partout, jusqu'à encore aujourd'hui, des dieux meurent et naissent quasiment, je dirais pas tous les jours, mais au Bénin. On assemble tous ces dieux-là, le couple de Gaulle est devenu des dieux vaudou à Alada, dans le sud du Bénin, donc voilà, c'est devenu aujourd'hui des divinités, mais on va chercher les forces, à partir du moment où il y a une force quelque part, on va la chercher, on la prend, on l'assemble. Ce qui vient de l'extérieur n'est pas problématique, au contraire, ce qui vient de l'extérieur est quelque chose qui renforce, donc on va chercher toutes ces forces-là, et on les assemble dans un tout. Et à travers ça, en fait, il y a aussi une conception de l'homme, on en parlera peut-être ensemble, une conception de la société, qui fait que il y a un principe d'assemblage qu'on va retrouver à Haïti, qu'on va retrouver, et c'est plutôt ce principe-là d'assemblage que moi j'appelle vaudou, plutôt que uniquement le volet, on va dire, religieux, culturel, qui est une des parties, en fait, de ce que j'appelle le vaudou originel, hein, dont on connaît aujourd'hui des variantes culturelles très très précises et qui sont extrêmement limitées par rapport à la vision du monde, en fait, que le vaudou transmet.
Alors, j'avais une question plus précise, hein. Je m'étais posé la question, Justement, dans ces pays, il y avait l'émergence de plusieurs religions d'un point de vue historique, notamment avec la traite négrière, et puis aussi les conquêtes de l'Empire ottoman, je crois. Enfin, l'émergence de l'islam, de la religion chrétienne, catholique ou protestante. Et moi, je m'étais posé la question de savoir mais qui étaient vraiment les personnes qui pratiquaient le vaudou et quelles étaient leurs motivations, qu'elles soient personnelles ou communautaires pour pratiquer ce, que ce soit justement, comme vous dites, un culte ou une véritable culture.
Bah, je ne sais pas, en fait, si on, la question de la pratique du vaudou, c'est, ça sous-entend en fait effectivement que c'est essentiellement une pratique, peut-être même magique essentiellement. Peut-être une réponse assez simple avant de partager aussi la parole, c'est de dire que peut-être dans ces pays-là, en fait, le fait de vivre, c'est déjà un acte religieux. Ensuite, qu'on dit être chrétien, musulman, ou, c'est secondaire, en fait. La manière, en fait, dont on va croire, ou, c'est pas ça le problème. Le fait d'être déjà en vie, en fait, chaque moment est déjà un moment qui a sa force spirituelle, on va dire, de manière plus générale. À partir du moment où on est dans cet état d'esprit, j'allais dire que tout est vaudou. Et à la fois, tout peut être intégré à ça. C'est-à-dire que aujourd'hui, au Bénin, on dit qu'il y a plus de 200 religions, et pour l'instant, elles vivent très très bien ensemble. Vous parliez de l'islam, c'est vrai qu'il y a eu des pays très islamisés, par exemple le Nigeria qui est à côté, est aujourd'hui à 90% dans l'islam. Au nord, Niger, Burkina Faso, on est à peu près sur des proportions comme ça. Le Bénin, non. On est à peu près à 50% au nord, 20% au sud. Et proportion inverse en termes de catholicisme, mais tout ça fonctionne relativement bien, justement peut-être, enfin en tout cas moi c'est mon hypothèse, à cause de ce principe-là d'assemblage, c'est-à-dire que tous les dieux sont les bienvenus en fait. Et c'est pas un problème si un dieu arrive qui s'appelle Jésus, ou le fils d'un dieu qui s'appelle Jésus, pourquoi pas, il est le bienvenu, il est intégré à un ensemble beaucoup plus large, à partir du moment où il amène quelque chose qui n'existe pas là, il amène quelque chose en plus. Donc il renforce l'ensemble. Et au jour d'aujourd'hui, en tout cas, il y a cette forme-là. Moi, je n'appelle pas ça du syncrétisme, d'une certaine manière, parce qu'il n'y a pas effectivement du syncrétisme, mais les gens vivent plusieurs religions, peuvent vivre plusieurs religions dans leur quotidien, voire dans la même journée. Il arrive de voir des prêtres catholiques qui, le soir, sont dans les couvents vaudous. Voilà. Et ça choque les catholiques, pas les vaudouisants, j'allais dire, d'une certaine manière. Dans le sens où c'est pas problématique et c'est pas contradictoire. On parlerait ici de contradiction, donc si on estime que la contradiction doit être résolue ou surpassée, donc il faut en faire quelque chose, mais c'est pas nécessaire, en fait. C'est juste des choses qui peuvent aller ensemble, il suffit de les assembler correctement, leur donner chacune une place, et à partir du moment où on est clair avec cette place-là, il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien. Donc, et c'est ce principe d'assemblage pour aller justement aller du côté du Brésil, etc. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de souci pour à la fois accueillir la religion des gens qui faisaient du commerce, on va dire, mais aussi des religions d'autochtones ou d'indigènes qui étaient sur place, à la fois en Haïti, où il y avait le Taïno avant, à la fois au Brésil, qui ont complètement intégré et fabriqué autre chose. Évidemment, les choses évoluent. Le vaudou qui existait il y a 150 ans au Bénin n'est plus le même que celui qui existe aujourd'hui. Il s'est transformé aussi. On n'est pas sur des choses figées. On n'est pas sur des choses définitives. J'ai un ami, quand je lui demandais, en regardant une cérémonie, mais est-ce qu'ils font la même chose qu'il y a 60 ans? Ils m'ont dit non, ils font presque la même chose. Mais en fait, dans le presque, il y a tout, en fait. Voilà, tout ça, c'est soumis à l'interprétation. Et la question, c'est l'interprétation.
Le rituel a une part extrêmement importante. Notamment autour de la danse, autour des objets de certains rituels, autour de l'organisation de vie et puis du symbole. Alors je ne sais pas, justement, la question c'est savoir si c'est un symbole, par exemple le fétiche, ou si c'est quelque chose, une véritable entité. Donc moi ce que je me posais la question, c'était qu'est-ce qui va en fait organiser le vaudou, faire ce que le vaudou est le vaudou, en fait.
On en parlera plus, enfin, on va peut-être aussi... La question des rites, en fait, c'est des choses complexes. Déjà, je ne sais pas quelle définition vous donnez au rite, mais moi, quand je vois une cérémonie, par exemple, beaucoup de gens font des cérémonies de divination, plus ou moins, quand on a un événement dans sa vie, quand on doit faire un voyage important, quand on doit acheter une maison, on va voir ce qu'on appelle un bokonon, ce qui est un tradi praticien, quelqu'un qui va faire une divination. Je ne sais pas si vous connaissez le système de divination chinois qui s'appelle le Yi Qing, qui est basé en fait sur 64 hexagrammes. Au Bénin et dans toute cette région, il y a un système de divination qui s'appelle le Fa ou Afa, qui est basé en fait sur le jet d'écorce de pommes sauvages. Voilà. Et qui, selon la manière dont la pomme tombe, donne un ensemble de 256 signes. Et sur ces 256 signes, il y a une dizaine d'histoires associées au minimum sur ces signes-là. Et la personne qui fait, donc tout est oral évidemment, donc la personne qui fait cette divination, à partir du moment où on va voir pour un problème, il y a un signe qui sort, ceci, il y a une histoire, et cette histoire, vous verrez, pour ceux qui resteront pour le film à la fin, justement ça commence par une divination, quand je suis allé faire le film, je suis allé faire une divination, et il y a un signe qui est sorti, bon, en gros, on m'a dit, voilà, ce que vous faites, c'est très très bien, parce que je ne sais pas si vous allez comprendre ce qui va être raconté, et on me raconte une histoire. Et donc souvent lié à ces rites, il y a des cérémonies à faire. Donc ça peut être une prière à faire, ça peut être on parlera de la question psychologique de l'implication de ça quoi. Mais il y a des cérémonies à faire. Et quand on voit la complexité, mais la complexité est intéressante en soi en fait, du rite, même des choses relativement simples qui peuvent être, un simple sacrifice d'un poulet plus un ensemble de choses, mais la complexité, le soin qu'ils mettent à réaliser les rites. Effectivement, beaucoup de choses sont à base du rituel. Enfin, en tout cas, moi, c'est une de mes convictions. Le rite parle à l'inconscient. Voilà. Contrairement aux mots, le fait d'acter quelque chose, de poser un geste, de poser quelque chose de très précis, ça parle directement à l'inconscient.
Donc, moi, je voulais savoir donc. S'il y a ce rite qui existe, ces rites, puisqu'il y en a plusieurs, le vaudou a une action effective, c'est-à-dire que ça peut être utile, c'est-à-dire qu'on vient voir les prêtres, les praticiens, comme vous dites, vaudou, pour des raisons spécifiques, pour répondre à des questions, des angoisses, mais même des problèmes que... peut-être le docteur Vignol le qualifierait de clinique. Moi, je me posais la question de savoir comment il prenait en charge ces choses-là, que ce soit les inquiétudes, savoir pour un mariage, choses comme ça, ou pour une maladie. Comment il prenait en charge quel était le statut vraiment du malade? Et puis, quels étaient les moyens mis en place, moyens pratiques pour répondre à ses attentes.
Oui, ça a une efficacité dans le sens où une des choses où les couvents, entre autres, et les divinités sont jugées, j'allais dire, par les gens, c'est par rapport à leur efficacité. Okay. C'est-à-dire que si un dieu n'est pas efficace, en fait, on le délaisse. Mmh. Ouais, c'est aussi simple que ça. D'où le fait que très souvent, en fait, dans les couvents, c'est là où il y a une très grande connaissance de la pharmacopée, et de tous les systèmes de soins, parce qu'à partir du moment où un adepte rentre dans un couvent et s'il meurt dans le couvent, ça veut dire que son dieu n'est pas fort quoi, en fait, et n'est pas efficace. Donc pourquoi il irait être au service d'un dieu qui n'est pas capable de le soigner? Donc il y a une grande connaissance en fait, essentiellement de la faune et de la flore, de la pharmacopée, ce qu'elle peut aussi produire, alors potentiellement aussi des choses négatives, mais aussi pour soigner. Tout simplement parce que la puissance d'une divinité, hein, mais ça peut être autre chose, la puissance de quelque chose, se jauge à son efficacité. À partir du moment où il n'y a pas de résultat, il n'y a pas de raison de continuer à pratiquer telle chose. Voilà.
Je me tourne vers vous. Dans notre entretien par mail, vous m'avez parlé d'un cas pratique, si on peut dire.
Un cas clinique, oui.
Un cas clinique. Je vais vous donner le lien. Je finis juste du coup la question.
Ouais, ouais.
Et vous m'aviez dit donc que vous receviez en entretien donc depuis plusieurs mois un jeune béninois élevé donc dans la tradition vaudou et et qui a quitté son pays natal, poussé par des esprits malfaisants, et par ce qu'il nomme, alors moi ça m'a paru assez, voilà, nébuleux, je me suis dit on va peut-être en parler, donc un pacte familial du côté des femmes. Et donc ce jeune Béninois, il est errant en France, vous l'avez rencontré dans une rencontre d'association de SDF, et vous vouliez savoir comment il faisait la part entre le vaudou et l'esprit malfaisant. Oui. Enfin voilà, je vais vous laisser la parole.
Oui, je pense qu'on est à l'hôpital psychiatrique, et je pense que c'est assez intéressant de parler de vaudou à l'hôpital psychiatrique. Donc effectivement, je pense que c'est pas anodin qu'on nous ait proposé de parler de ça ici. Et c'est effectivement, quand on fait nos études de psychiatrie, savoir où commence le délire, ou qu'est-ce qui est culturel, qu'est-ce qui ne l'est pas, est quand même une question fondamentale. Enfin, dans mes études de médecine, de psychiatrie, on faisait venir l'exorciste municipal, diocésain, pardon, pour nous expliquer comment ils font la part entre un délire mystique et quelqu'un qu'on doit exorciser ou pas, et qui est la part pathologique et du normal. Bon, ça c'est la tarte à la crème, mais c'est quand même le fondement. Je sais que vous êtes passionné de cinéma muet, c'est une aparté, mais qui rentre tout à fait dans un des grands films qui s'appelle L'histoire de la sorcellerie à travers les âges de Christensen. On passe par toutes les sorcières, les diables, les démons, etc., etc., pour aboutir quand même aux dernières sorcières qui sont les hystériques. Et finalement, ceux qui traitent les hystériques, c'est les psychiatres. Je veux dire que même dans un film comme ça des années 20, on a quand même la figure du psychiatre qui aussi, à la fois, peut détruire et aussi faire du bien. Enfin, c'est-à-dire que je pense que l'ambiguïté ou l'ambivalence par rapport à la figure même du psychiatre aussi se joue là. C'est-à-dire que quand on dit dans la société, quand on fait un voyage, bon, un soir, vous dites « je suis psychiatre », oh là là, d'un seul coup, on nous dit « voilà, faire attention à ce qu'on dit, c'est des choses ». Ou au contraire, on se déverse pour... effectivement, voilà. Donc, là aussi, je pense que si vous avez placé cette discussion sur le vaudou à l'hôpital psychiatrique, c'est quand même pas, j'ai envie de dire, comme ça, pour faire joli. Voilà, alors moi, effectivement, quand vous m'avez parlé de ça, j'ai tout de suite associé sur un jeune Béninois que je reçois dans une association de SDF, dont je parle, je travaille depuis une quinzaine d'années, mais quelqu'un qui est ici. Donc un jeune de 28 ans, totalement errant, depuis 2 ans et demi en France, qui demande à voir le psychiatre, c'est-à-dire que ce n'est pas un internement, ce n'est pas quelque chose de suggéré. C'est vrai que l'équipe avait alerté, ce jeune, il bouge en tous les sens, il danse, il fait peur, il inquiète de par son comportement, on demande de le recevoir. Je le reçois, il demande lui de, en plus, avoir le psychiatre, alors je ne vais pas reprendre tout le cas, mais en gros, il me dit qu'il y a trop de choses dans sa tête, que sa tête n'est pas, une très belle formule, ma tête n'est pas posée. Hop. Oui, il a une très belle formule, il dit « ma tête n'est pas posée, je n'arrive pas à poser ma tête enfin, ». Donc je me suis demandé, c'est pas ça qui venait déposer, je veux dire, dans le bureau. Et il me parle effectivement qu'il est totalement ensorcelé, c'est pour ça qu'il a dû quitter le Bénin suite à un ensorcellement. Alors je ne vais pas prendre tout le cas parce que ça prendrait une bonne heure, parce que je le vois assez régulièrement. Il explique que cette sorcellerie lui est apparue une nuit... ça lui a parlé dans la tête, on lui a dit tu es ensorcelé. À partir de là, il est obligé de quitter la maison, de fuir chez des voisins, etc. Il a quand même. Il m'explique qu'il y a une culture musulmane. Il n'y a pas de contradiction, qu'effectivement, il a tous les rituels du vaudou. Alors qu'il est né, alors c'est peut-être une question, peut-être un peu trop précise, j'en sais rien, qu'il est né juste après 2 sœurs jumelles. Et que ça avait l'air compliqué dans la fratrie, notamment son père, qui est parti pendant la grossesse de sa mère, enfin, le concernant, le père serait parti, donc abandonné par le père. Et il y aurait un sort comme ça, un pacte. Lui, il a un langage, il utilise le français d'une manière extrêmement précise, il parle de pacte maternel le concernant. Il la voit, il l'identifie comme étant une tante, du côté maternel, qui lui dit « t'es ensorcelé », etc. Et il ne peut pas rester visiblement au Bénin, c'est pas possible, il faut qu'il aille ailleurs vivre ça. Alors on parlait des rituels, dans les rituels, lui, pour arriver à vivre quand même, il y a deux rituels, enfin je ne sais pas si on peut appeler ça des rituels, c'est la danse et la prière, alors, prière musulmane, donc il prie, il récite ces trucs qui le protègent et qui lui permet quand même justement de pouvoir prendre la fuite et arriver en France. Alors, c'est quelqu'un, effectivement, qui donc est possédé, il y a un souffle, il parle énormément de sorcellerie. Lui, il fait la différence entre la sorcellerie et le vaudou. Alors, c'est là où, pour moi, c'est très compliqué, parce que nous, dans nos schémas de psychiatrie très traditionnels, la transe, la possession, historiquement, ça relève de l'hystérie. Actuellement, dans les classifications internationales, c'est un trouble dissociatif. Le trouble dissociatif renvoyant à d'autres entités, des troubles de conscience. Donc, effectivement, je peux tout simplement me dire, il est psychotique, il délire, il est envahi par quelque chose. Sauf que, il ne me demande pas, d'ailleurs, mon avis, il ne demande pas ce qu'il a, il vient, et quand je ne le vois pas, il demande à me voir, enfin, voilà, et j'ai perdu un peu le fil, il a surtout cette capacité à pas se mettre en récit, mais à dire ses sensations. Il dit aussi qu'il se transforme tous les jours. C'est-à-dire que tous les jours, on a l'impression que les sensations corporelles de la nature, du soleil, d'être de bonne humeur ou de mauvaise humeur, c'est ça qu'il appelle être transformé, être différent. Alors ça, je ne sais pas s'il y a des aspects culturels dans ça, mais voilà. Et ce que j'avais oublié, c'est voilà, une répétition de son histoire, c'est-à-dire que lui... Il était abandonné par son père qui n'a pas connu, ses parents divorcent. Et dans sa langue à lui, qui est très belle, il dit qu'avant de partir du Bénin, il a enceinté une femme. Et là, c'est à ce moment-là qu'il est obligé de partir. Donc il a répété l'histoire, parce qu'il n'a jamais vu son enfant encore. Il a un lien avec cette femme qui s'est mariée une fois qu'elle était en France. Une fois que l'enfant est né, ils ont fait la cérémonie de mariage. Alors ça aussi, il y a mariage donc sans lui. Alors là aussi, il y a des aspects quand même culturels qui sont quand même compliqués en tant que psychiatre. Et la question, moi, qui me vient, parce qu'on parle de troubles dissociatifs, effectivement, dans le langage psychiatrique, mais il a trouvé un boulot qu'il tient. Donc, s'il était aussi agi par ses voix comme ce qu'on voit, nous, dans nos services... Deux, il était hospitalisé au Vinatier pendant 10 jours par des collègues qui l'ont traité comme une psychose. Il n'en a rien eu à cirer, il est parti, il n'a pas pris les traitements. Trois, je ne sais pas ce qu'il vient chercher. C'est-à-dire qu'il vient me voir. Donc c'est un lieu effectivement très symbolique, puisque il est SDF, donc il dort avec le 115 ou avec les pompiers, enfin, dans la rue. Il vient sûrement rechercher quelque chose, déposer quelque chose, ou me faire agir quelque chose, je n'en sais rien, mais il me demande comment il peut avoir un traitement spirituel, mais il ne me demande pas de faire un traitement spirituel. Enfin, je dirais, il vient parler. Alors je prends des notes, je suis quelqu'un qui prend beaucoup de notes, et je sens qu'il aime bien que je note. Enfin, c'est quelque chose de voilà. Donc il y a, lors d'un rituel, comme si j'étais même aussi inclus dans son rituel, c'est-à-dire que une fois, je n'ai pas voulu le recevoir parce qu'il y avait une fête dans cette association, et j'ai pas pu ne pas le recevoir. Il a fallu qu'on aille dans le bureau, qu'on discute. Il attend rien de moi, si ce n'est l'ordonnance, qu'il ne prend pas. Mais si jamais je lui fais pas, et s'il l'a perdu, il m'en redemande une. Donc là, il y a aussi quelque chose de l'objet que je lui donne. Voilà. Donc ça, c'est des choses qui sont assez moi, m'interroge, parce que comment je peux dire qu'il est psychotique, je peux rapidement faire un diagnostic, il est sûrement psychotique, mais le problème, c'est une fois qu'on a dit ça, on n'a rien, voilà, il faut aussi l'aider à vivre et devoir surmonter ça. La seule chose qu'il a modifiée, depuis que je le vois à peu près 6-7 mois, c'est qu'il a renoué téléphoniquement avec sa femme. Donc il a repris des liens quand même là-bas, donc je me dis, peut-être que ça sert quand même à quelque chose, et il tient son boulot, ce qui est vu... voilà. Après la question diagnostique, on pourra en discuter, mais je ne sais pas si tu peux déjà rebondir là-dessus.
Effectivement, je reviendrai sur d'autres choses, mais la question, de toute façon, par exemple, de l'ordonnance, c'est la question du talisman, en fait, quasiment. partir du moment où il vient chercher une figure, et une figure d'autorité et une figure thérapeutique, il vient chercher le même type de personnage qu'il pourrait trouver dans son environnement, qui est celui vers lequel on va pour un ensemble de problématiques, et qui donne, quoi qu'il arrive, quelque chose. Ça ne peut être qu'une prière. S'il n'y a rien de particulier, ça peut être une prière. Et quand vous parliez du lien, très souvent, en fait, les méthodes de guérison... Parce que, il faut bien voir que, on va dire, pour les, au Bénin, on va dire 85 à 90% des maladies sont psychosomatiques. À partir de ce moment-là, en fait, il y a le traitement, en fait, même de maladies qui semblent des maladies allopathiques classiques, on va dire, en réalité, ont une cause profonde, qui sont des causes psychiques, en fait. Et donc, avant... Alors évidemment, quand on se casse un bras, c'est pas, ben voilà, on va faire un plâtre, quoi. Mais si on a un ulcère, par exemple, c'est pas nécessairement qu'avec du plâtre qu'on se soigne. Ça peut être une cause plus profonde, en fait. Et c'est cette cause-là qu'on va interroger, en fait, quand on va voir les tradis praticiens, de manière générale. Et cette cause-là, à partir du moment où ils estiment que c'est quelque chose de psychologique, ils vont chercher le type de raison. Et souvent, ce sont des raisons relationnelles ou de rupture de relation. Sachant que la personne a un problème avec sa mère, avec qui elle ne parle plus depuis des années, et le fait de ne plus parler à sa mère, ça lui pose des problèmes psychologiques très particuliers, ça entraîne somatiquement une transformation, ça peut se faire par un mal de tête récurrent, etc. Et donc tout le travail, en fait, du praticien va être justement d'aller rechercher cette cause-là et de renouer la relation en disant: allez faire une prière, mais vous n'allez pas la faire seule. Vous allez la faire obligatoirement avec votre mère. Parce que cette prière doit être faite avec elle. Sinon, ça va marcher. Mais en fait, en faisant ça, non seulement il donne un acte, enfin, comme une ordonnance, d'une certaine manière, mais cette ordonnance, en fait, va recréer le lien qui était à l'origine, en fait, du problème que la personne a pu avoir. Donc elle recrée ce lien-là. Donc c'est le fait de dire, par exemple, il retéléphone à sa femme, ça a une importance majeure en réalité. Parce que peut-être à travers ça, il recontacte aussi l'enfant qu'il ne connaît pas. Vous parliez des jumeaux, c'est vrai que les jumeaux, c'est très particulier, en fait. La question des jumeaux, ce sont... toute personne différente, et j'en parlerai peut-être un peu plus précisément au Bénin, et pas quelqu'un de problématique, mais quelqu'un qui amène quelque chose, encore une fois, de plus. C'est quelqu'un qui est plus proche de Dieu. J'allais dire d'une certaine manière, pour résumer, même si les mots ne sont pas très très justes. Donc les jumeaux, c'est quelque chose de très particulier, la gémellité. Ce n'est pas des êtres comme la plupart des gens entre nous. À partir de ce moment-là, ils ont, et puis on sait très bien en plus, c'est les connexions peuvent avoir les jumeaux, etc. Ils ont quelque chose de particulier. Donc ils ont un caractère sacré. Et très souvent, on dit aux femmes qui ont des jumeaux de ne pas finir sur des jumeaux. Il faut nécessairement avoir un enfant après. Qu'on appelle généralement au Bénin, alors je ne sais pas si c'est son nom, Tosu.
Le Tosu, alors voilà, je regardais mes notes, il m'a dit qu'il s'appelle le Tosu.
C'est ça, donc c'est celui qui arrive après les jumeaux.
Voilà, et ça nécessite un certain nombre de rituels.
Mais c'est des vaudous. Oui,
et la descarification,
tout à fait.
Qui sont
parce
en lien avec cette position.
Parce que c'est comme si l'arrivée de jumeaux ouvrait un espace flou, trouble, par rapport à une normalité, et qu'à partir de ce moment-là, il fallait... réencadrer, redonner du sens, etc. Voilà. Donc c'est quelque chose qui... il est pris là-dedans, il est pris dans cette histoire, lui. Donc cette histoire peut le dépasser, parce qu'il y a certainement d'autres choses par rapport à tout ça, dont on pourrait parler. Mais c'est vrai, cette question... Il y a deux questions. Il y a la question de l'écart à la normalité, et la question aussi de quel mot on met sur les mots. Et... il y aurait deux histoires que j'aurais envie de raconter là. La première, c'est l'histoire d'un écrivain qui s'appelle Gustave Akpakpo, qui est togolais, et qui aujourd'hui vit à Versailles, en fait. Et c'est quelqu'un qui, quand il était jeune, il vivait vers Lomé, était un enfant complètement agité, et à la fois assez dans la lune, quoi. Il faisait un peu n'importe quoi, bon, il n'était pas très 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 bien. Et donc ses parents, plutôt que de lui donner de la ritaline immédiatement, en fait, sont allés voir le tradit praticien, pour savoir un petit peu ce qui se passait avec cet enfant-là. Et en fait, le tradit praticien leur a dit, il a fait sa divination, et il a dit, cet enfant, en fait, est lié à telle divinité. qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à tout ça. La seule chose que vous pouvez faire, c'est installer la divinité chez vous. Bon, c'était la prescription, l'ordonnance, en fait, qu'il a donnée. Et ce qui s'est passé, bon, les parents, ils sont dans ce milieu-là, ils sont de tradition catholique, hein, ces parents-là, mais ils l'ont fait. Ils ont installé la divinité auquel était relié cet enfant complètement agité chez eux. En faisant ça, ils ont fait deux choses, en fait. Ils ont à la fois accepté l'enfant tel qu'il était. C'est-à-dire que le fait d'installer, à partir du moment où ils ont compris que cet enfant, il n'avait pas un problème, en fait. C'était pas un enfant anormal, c'était pas un enfant, c'était juste un enfant qui était pris par quelque chose, en fait. Par une histoire familiale, par quelque chose. On est tous pris, en fait, dans un nœud de relation, en réalité. Donc, on n'a pas toujours les tenants et les aboutissants. Hein. Notre arbre généalogique est plein de choses dont la plupart des gens ne sont pas au courant et qui, à un moment donné, peuvent se focaliser sur une naissance, on est de telle ou telle manière, parce qu'on ressemble à telle ou telle personne, etc. Bon, en tout cas, ils ont installé cette divinité et, en faisant ça, ils ont dit « Cet enfant n'est pas un enfant anormal. C'est un enfant normal, agité momentanément, on va dire. » Et on l'accepte tel qu'il est. C'est-à-dire qu'on n'essaye pas de le changer. On ne le change pas parce qu'il est particulier. Et que ce n'est pas la peine, de toute façon, il ne va pas changer en essayant de le changer. Il est comme ça. Et on installe la divinité chez nous. C'est-à-dire qu'on accueille l'enfant comme participant pleinement, en fait, à cette famille. Et pas comme une espèce de malédiction particulière. Donc ça, c'était le premier élément. Juste pour dire quel mot on met. Et le deuxième, en fait, est une histoire un peu plus personnelle. Moi, mon deuxième enfant est atteint dans ce qu'on appelle un syndrome. Ça s'appelle le syndrome de Williams. Je ne sais pas si vous connaissez ce maladie génétique, oui. Qui est une forme d'autisme un petit peu particulier, qui est plutôt vers l'ouverture, on va dire, par rapport à tout ça. Et donc, bon, on l'a découvert vers 4-5 ans, et puis on a fait toutes les démarches qu'il faut, donc on va voir. Et donc, il y a tout un diagnostic clinicien, en fait, qu'on donne ici, par rapport à ces enfants-là, qui sont lents, qui apprennent difficilement, etc. Et puis, moi, bon, mon père est du Bénin, moi, j'y vais assez régulièrement. Là-bas, il y a une tradition, on va dire, familiale, ou en tout cas une habitude, c'est que chaque enfant va chercher ce qu'on appelle son Djoto. Son Djoto, c'est l'ancêtre protecteur, en fait. Ils estiment que l'individu a plusieurs âmes. Ça fait partie des choses de l'assemblage, là aussi. Même l'individu est assemblé, en fait. On fabrique les hommes aussi, hein, comme on fabrique les dieux. Donc l'individu assemblé, on a plusieurs âmes. Et une de ces âmes s'appelle le Djoto. Et le Djoto, donc, c'est l'ancêtre protecteur. C'est celui qui nous rattache, finalement, on ne vient pas de nulle part, qui nous rattache à la famille. On a un ancêtre dans notre lignée qui nous protège, d'une certaine manière. Bon, mon père l'avait fait pour nous, et quand je suis allé au Bénin l'année dernière avec les enfants, j'ai fait pour les enfants. Et donc, j'ai deux enfants. Et donc, le premier, on a trouvé le premier, ce qu'on appelle Da, c'est-à-dire chef de famille de la maison. Et puis, pour Orient, le deuxième, le devin n'avait jamais vu. Hein. Il jette donc le collier, et puis il dit, il y a un problème. Quel problème ? Et en fait, cet enfant... Il n'y a pas d'ancêtre protecteur direct, c'est une divinité qui s'appelle Dan. Moi, je connaissais une divinité, on dit qu'il y en a 201 divinités, donc beaucoup. Hein. J'en connaissais une qui s'occupait en fait des enfants mort-nés et des enfants nés anormaux qu'on appelle les Torosu, qui sont des divinités des eaux au Bénin. Et je pensais en fait peut-être que cet enfant que j'avais était lié potentiellement en fait, dans cette explication-là au Torosu. Mais en fait, il y en a un autre qui s'appelle Dan et qui en fait, c'est un serpent arc-en-ciel qui se mord la queue et qui a un dieu messager en fait. Hein, qui fait le lien entre le ciel et la terre, un dieu un peu particulier, comme tous les dieux d'ailleurs, qui sont des dieux complexes, contradictoires, ni bons ni mauvais, enfin bon, comme les hommes, quoi, plus ou moins. Et donc il est lié à cette divinité-là, il y en a un peu partout, c'est des divinités aussi protectrices des maisons. Donc il fait cette divination, il dit en fait, cet enfant, quand on fait la divination, ça tombe sur ce dieu-là, qui est aussi un dieu qui protège ce type d'enfant, en fait, atypique. On refait. Une deuxième fois pour aller chercher qui est celui qui, derrière quand même, il retombe sur Dan. Généralement, des enfants comme ça, ils sont directement initiés. Quoi. Voilà. Et non seulement ils sont directement initiés, mais en plus, ils vont avoir des responsabilités dans les couvents, dans le culte. Parce que, bon, c'est extrêmement rare, on va dire. Voilà. Et ensuite, ils sont... Bon, parce qu'ils savaient que je venais de France, hein, moi je suis né en France, ils ont dit, on ne va pas trop lui faire peur. Bon, ils sont allés chercher quand même, ils ont trouvé mon père, bon, tout allait bien. Et ils ont raconté son histoire. Avec leurs mots à eux, en disant, ben voilà, cet enfant, en fait, c'est un enfant qui est pris par cette divinité-là, il est né dans certaines circonstances, c'est un enfant très lent, qui va avoir des ruptures dans sa vie extrêmement rapides, qui vont le transformer assez rapidement, et puis ensuite, il va reprendre son cours, etc. Et que cet enfant, en fait, il est achoyé, en fait, c'est un trésor. C'est pas un problème, c'est pas... Bon, je le prenais pas comme ça, pour moi, c'était déjà un cadeau, parce qu'il a un univers tellement étonnant, quoi. Mais d'une certaine manière, leur manière d'en parler, c'est de dire, voilà, cet enfant, c'est un trésor, en fait. Ils ont même dit les mots, tout votre bonheur va passer par cet enfant, donc il faut le choyer. Et à partir du moment où on prend un enfant comme ça, plutôt que de dire, c'est un problème, bon, ou j'ai honte, ou qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il m'arrive ça, en fait, le regarder comme ça, le regarder comme un trésor et comme un cadeau, comme quelque chose qui amène quelque chose de plus, parce que ce qu'il fait cet enfant, la plupart ne le font pas. Alors, bon, ça peut sembler parfois étrange, mais on rencontre plein de gens grâce à lui, enfin bon, bref. Et parce qu'il va vers tout le monde très facilement, etc. Donc, c'est un cadeau. Et à partir du moment où on le regarde comme ça, déjà l'enfant, lui, il sent qu'il a une place, donc il ne grandit pas de la même manière. Ensuite, les gens qui sont autour, à partir du moment où ses propres, les gens qui l'entourent le regardent comme ça, ils le regardent aussi différemment. Son cousin, qui est on dit un enfant normal, ne parle pas de lui comme handicapé, il parle de lui comme un enfant rare. C'est pas pareil. Donc voilà, donc en fait, tout ça se met en... Enfin, bon, alors, effectivement, il aura des difficultés, un certain nombre de difficultés, etc. Mais il y a quand même une manière, en fait, de prendre, à la fois d'intégrer les choses. Quand je parlais tout à l'heure de Gustave Akpakpo, le fait de l'avoir accepté, aujourd'hui, il est écrivain. Je pense qu'on l'aurait catégorisé comme un enfant agité, à problème et machin, etc. C'est pas du tout le dessin qu'il aurait eu. Là, aujourd'hui, il est écrivain, il vit à Versailles. Bon, il a pu développer quelque chose. Et il a pu peut-être éviter de basculer, en fait, dans le discours clinique, en fait, sur lequel, potentiellement, il aurait pu tomber relativement vite, dans d'autres circonstances. Voilà. Orient, c'est un petit peu différent, mais d'une certaine façon, en fait, c'est aussi, il y a de la place pour lui. Et le fait, il serait au Bénin, il serait intégré, en fait, comme une, enfin, dans les couvents, il aurait une place, il serait respecté, parce qu'en fait, enfin, comme quelqu'un qui a des capacités, en fait, hors normes, quoi. Ce qui est le cas.
C'est aussi tout le problème de la psychiatrie. Elle est forcément référée à un espace culturel. Enfin, la psychiatrie, moi, je suis toujours étudiant, enfin, aux internes, c'est avant tout, c'est essentiellement une pratique qui se nourrit de l'air du temps et justement, c'est bien à la fois ce qui est intéressant et ce qui peut être très décevant, parce qu'effectivement, le cas que vous exposez de votre fils, il ne sera pas perçu de la même manière au Bénin ici, c'est sûr. Et c'est tout le problème aussi de la psychiatrie qu'on a importé en Afrique. Alors là, c'est aussi un autre problème, ça. C'est-à-dire qu'on a créé des cellules de psychiatrie, des collègues, on a des liens ici avec le Mali, avec le point G, ça ne s'invente pas, c'est le point G à Bamako. On y va régulièrement, enfin, avant les événements. Mais c'est une psychiatrie, à chaque fois qu'on y va, on a l'impression qu'elle est quand même un peu greffée. Alors, après, il y a effectivement le co-regard, travailler avec les praticiens. Il y a des tas de possibilités comme ça. Mais je pense que toute la difficulté, c'est... On a la psychiatrie du pays où l'on est. C'est ça qui est terrible. C'est-à-dire que quand même, la psychiatrie est quand même née, les lois 1838 sur la psychiatrie française et européenne, sur les lois d'internement, quand même, enfin, et d'ordre public, quand même. C'est-à-dire qu'on peut toujours essayer de s'esquiver et de parvenir là-dessus. Ce qu'on nous demande quand même, c'est de contribuer à la paix sociale, quand même. Faut quand même l'avoir en tête. C'est pas pour ça qu'il n'y a rien à faire, c'est pas pour ça qu'on ne peut pas aider nos patients, c'est pour ça qu'il faut justement, nous, qu'on se pose en tant que psychiatre, ou en tant que soignant en psychiatrie, du côté de nos patients, même les plus difficiles, ou les plus inaudibles, ou les plus dangereux, c'est vrai qu'il faut qu'on se passe, nous, du côté de toujours notre patient. Autrement, on est fichu. En psychiatrie, c'est comme ça. Si on ne résistait pas, on mettrait des psys partout. C'est insupportable. On est sollicité de toutes parts, à tous les endroits, pour dire ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. On en est presque là, enfin, pas la morale, mais presque. Enfin, c'est vrai que c'est quelque chose qui devient un peu insupportable pour notre profession. Enfin, le manuel de psychiatrie qui fait autorité actuellement, le DSM-5, qui n'est pas un manuel d'ailleurs, qui est normalement fait pour la recherche, mais qui sert de manuel, il y a tellement de pathologies que tout est pathologique. Alors bon, après, d'accord, effectivement. Après, ce qui devient pathologique, c'est comment les choses s'organisent, c'est la manière dont on se joue. Et on voit bien que dans la psychiatrie comparée ou entre les pays, c'est pas, les symptômes sont les mêmes, mais c'est l'agencement des choses qui est très différente. Et donc le regard qu'on va avoir dessus, effectivement, nous, on essaye de parler de compétences chez un enfant autiste, quelqu'un qui a une déficience, de parler d'un handicap, on essaie de parler de compétences. Mais le mot compétence est assez intéressant aussi, parce que ça en dit long aussi sur notre société aussi, d'être compétent. Rare, c'est beaucoup plus beau. Hein, mais compétent, voilà, quand même, il n'est pas foutu pour la société. Il est compétent quelque part. Voilà, c'est un peu ça. Et toute la psychiatrie, elle est là.